Cube Radio.
Le 55e Super Bowl est à nos portes et c'est l'heure des prédictions. Patrick Mahomes, Tom Brady, Tyreek Hill, Antonio Brown, les experts de la zone payante passent au peigne fin les formations des finalistes. Pendant ce temps, la terre tremble dans la NFL alors que deux quarts arrière partants changent d'équipe. La saga Deshaun Watson se poursuit alors qu'il retire les mentions des Texans sur ses médias sociaux. Et vous cherchez des prédictions audacieuses pour le Super Bowl? La zone payante est là pour vous. Bonjour à tous, bienvenue à la zone payante. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné, je suis en compagnie de Stéphane Cadorette, notre expert au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Salut Steph.
Salut messieurs, content de vous retrouver pour ce grand jour du Super Bowl qui approche.
Oui, la dernière semaine de football en même temps, c'est un petit peu triste et on accueille aussi Jean Carrier, expert en football et ancien analyste au football du Rouge et Or. Salut Jean.
Salut les gars, je me sens très énergique parce que si on n'est pas énergique là, on le sera jamais.
Ouais, mais c'est ça, je disais un petit peu un deuil. Là, c'est notre dernière semaine de football avant un long hiver qui va se poursuivre. Et je disais ça à mes enfants là, quand les Dolphins ont été éliminés. Puis ils me disaient « Ah, mais là, c'est quand leur prochain match? » Là, je disais « Tu vas être au secondaire quand les Dolphins vont jouer un match. » Alors, c'est dans longtemps. Bon, hey les gars, c'est la semaine Super Bowl, on le disait. C'est toujours la semaine d'effervescence avant, avec toutes sortes d'entrevues et les journalistes de partout dans le monde qui viennent couvrir la NFL. Là, cette année, c'est assez différent, c'est plus tranquille. En plus, on dirait qu'on a deux équipes un peu plus sages, avec un peu moins de joueurs qui se lancent dans des déclarations spectaculaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de la semaine des médias jusqu'à maintenant, les gars?
C'est comme tu dis, c'est très particulier. Moi, pour ma part, j'avais fait les 9 derniers Super Bowls sur place. Cette année, contexte sanitaire oblige, le journal, on y va pas. Ça nous empêche pas de couvrir l'événement, mais tu sais, à distance, c'est totalement différent. Là, il y a vraiment pas la même proximité avec les joueurs. Ça se passe par Zoom. Écoute, on a pris l'habitude dans la vie de tous les jours, hein. C'est rendu ça pas mal, des visioconférences. Donc, on se connecte, on a l'occasion de poser des questions aux joueurs, mais cela dit, c'est pas évident parce qu'il y a un paquet de journalistes qui sont dans les mêmes conférences, qui essaient là, de poser des questions. Donc, c'est beaucoup plus froid qu'à l'habitude. Tu sais, moi, je suis habitué, là, je me rappelle les soirées des médias, entre autres, le lundi du Super Bowl qui lance la semaine. Tu sais, c'est un carnaval, les gars, là. C'est tout simplement bizarre. T'as des prétendus journalistes qui arrivent là, puis que le gros punch, c'est d'avoir le plus étrange accoutrement, puis de poser la question la plus farfelue. T'as pas eu ça du tout cette semaine, là. C'est pas le même genre d'ambiance, je dirais, de festival. On est habituellement, là, bon an, mal an, entre 5 et 6 000 journalistes sur place là, pour les séances médiatiques à chaque jour durant la semaine. Là, comme je le disais, par Zoom, c'est ce que c'est. Écoute, t'essaies de tirer le meilleur de ça, mais tu peux pas livrer le même rendu tant qu'à moi. Là, c'est comme impossible. Pour ce qui est des déclarations, j'ai rien vu de spectaculaire, comme tu disais, jusqu'à maintenant. La déclaration qui a quand même marqué un peu les gens, c'est que Tom Brady a carrément dit qu'il s'imaginait jouer passé 45 ans. Puis je sais pas si vous êtes d'accord, mais ce qu'on a toujours vu jusqu'à maintenant, c'est que Brady a souvent répété « Je me vois jouer dans cette ligue-là jusqu'à 45 ans ». Il avait jamais franchi le cap de dire « On sait pas, je pourrais aller plus loin ». Et là, on commence finalement à se demander « Il va-tu viser 50, Tom Brady? » Ça commence à être ambitieux, mais avec lui, sait-on jamais.
Surtout avec la nouvelle façon dont on protège les carrières dans la NFL, la longévité est là. On le voit, là, de plus en plus de carrières traversent la quarantaine puis ont du succès. Toi, Jean, qu'est-ce que tu penses de la déclaration de Tom Brady? Puis, y a-t-il d'autres choses qui ont attiré ton attention pendant la semaine?
Écoute, préparez les marchettes, les gars, parce qu'il va jouer jusqu'à temps qu'il soit plus capable de se déplacer. C'est aussi simple que ça. Mais je suis pas surpris. Les gars, il y a aucun signe de ralentissement tant que ça, là, de Tom Brady, là. C'est quand même vraiment intéressant, puis il défie vraiment l'histoire puis l'historique qu'on a d'un joueur productif après 40 ans, là. Surtout à la position de corps arrière. C'est quand même extrêmement spécial ce qu'il réussit à accomplir. Ceci étant dit, moi, ce que je retiens un peu, c'est que c'est deux formations qui se respectent, première des choses, ou du moins, il n'y aura pas de controverse, je pense, avec les déclarations des équipes qui s'encensent l'un l'autre, qui veut absolument pas là, mettre de la poudre sur ou mettre de la poudre sur le feu.
De l'huile sur le feu.
De l'huile sur le feu, merci, ouais.
Il y en a eu une seule à date, une déclaration là, qui est potentiellement explosive, c'est Jason Pierre-Paul, le secondeur extérieur des Bucks, ouais. Un vétéran qui a dit... Lui, il va sûrement faire face à Mike Remmers parce qu'on le sait, la situation des bloqueurs sur la ligne offensive des Chiefs, là, c'est vraiment pas idéal. Il y a des blessures. Donc, Remmers qui risque de se retrouver devant lui. Puis Pierre-Paul a déclaré, tu sais, je savais même pas c'était qui ce gars-là. Il a fallu que je cherche c'était qui. Là. Donc, tu sais, c'est le genre de déclaration qui peut mettre un peu le feu aux poudres, mais c'est pas non plus au niveau de ce qu'on a vu certaines années là, où ça part sur des dérapes monumentales. Là. On n'est pas rendu là pour l'instant.
Non, puis j'ai vu deux carrières qui se respectent beaucoup. Les deux avaient beaucoup de bonnes choses à dire. Mais on me dit, je suis... tout à fait fasciné comment Brady peut découper une défensive puis déceler à peu près tout avant le jeu dans ce qui est la phase pre-snap d'un jeu. Donc, évidemment, là, la lecture puis des défensives. Brady, lui, je pense qu'il a mentionné que Mahomes est extraordinaire avec sa mobilité et son bras. Puisque c'est tout à fait vrai des deux côtés. Donc, non, je pense que c'est ça qu'on retient. On retient deux équipes respectueuses. Qui vont garder, je pense, les feux d'artifice pour le terrain.
Puis Brady, pour encore continuer sur sa semaine avant le Super Bowl, a fait une petite déclaration d'amour là à son ancien entraîneur en disant que c'était tout ce qu'un joueur pouvait souhaiter. C'est ce que Bill Belichick lui a offert. Là. Est-ce que ça, c'est une déclaration remplie de sincérité, d'après vous?
Ben, moi, en tout cas, j'ai personnellement apprécié cette déclaration-là parce que je trouve ça un peu débile, là, ce qui se passe en ce moment, là, puis le mot est faible. Essayez de savoir, est-ce que la dynastie des Patriots, c'était Bill Belichick ou Tom Brady? Pourquoi ça pourrait pas être les deux? Pourquoi ça pourrait pas être un heureux mélange? Puis aussi les équipes qui ont entouré ces deux gars-là, c'est pas juste les deux, là. Là, c'est drôle parce que Tom Brady se retrouve au Super Bowl. Les Patriots font pas les séries. Ah, automatiquement, là, on fait le raccourci intellectuel. Ah ben, Brady est bien plus fort que Belichick. C'était lui le responsable de tous les succès. Attendez, là. Moi, j'ai admiré que Tom Brady réponde ça. Qu'il le pense ou non, il a eu de la classe publiquement. Il a pas commencé à bâcher son ancien entraîneur-chef. Il est conscient qu'il a contribué à ses succès. Même si la relation est froide entre les deux, comme on le décrit depuis plusieurs années là, dans différents médias proches de l'équipe, c'est pas une raison pour aller se planter en public. Bill Belichick a été élogieux plusieurs fois depuis le départ de Tom Brady. Vice-versa, au Super Bowl, c'est la plus grosse scène médiatique qu'il y a pas. Imaginez si Brady avait lancé une flèche. Tu sais, j'ai entendu un ancien Patriot cette semaine, Danny Amendola, receveur pour les
Lions. Ben oui, c'est un peu lui là, qui a mis le feu là, en disant que c'est vrai que le débat ensuite est né, mais il reste que c'est quelqu'un qui était proche, qui a tout vu ça.
Il a dit, lui, en gros, pour ceux qui l'ont pas vu ou entendu, que le Patriot Way, ça se résumait à Tom Brady. Écoute, c'est qui Danny Amendola pour parler comme ça de Bill Belichick? C'est qui? Qu'est-ce qu'il a accompli dans cette ligue-là pour parler comme ça, pour le dénigrer de cette façon-là?
Il a joué quoi, 2 ans en Nouvelle-Angleterre?
Ouais, quelque chose comme ça. Puis c'est pas un joueur qui a été marquant dans l'histoire de la concession non plus. Il a eu ses contributions, là, ça j'y enlève pas. Mais c'est pas un joueur qui a carrément là, élevé l'équipe à un autre statut. Là. Attention.
Ouais, il a pas été appuyé.
J'ai trouvé que Brady, qui pense ce qu'il veut de Belichick en privé, c'est une chose. Mais j'ai trouvé qu'il avait fait preuve de classe là, de pas le salir publiquement. Puis ce qu'il peut penser de Belichick, c'est peut-être à un niveau plus personnel la relation entre les deux. Mais il est capable de reconnaître que c'est un mentor pour lui, qui est un entraîneur majeur dans son développement, dans sa carrière, que c'est lui qui lui a donné une chance. Puis ça, moi, c'est quelque chose que je trouve louable de sa part de l'avoir reconnu sur ce stage-là.
OK, merci les gars. On va faire une pause et après, eh bien là, c'est le moment qu'on attendait tous. C'est les prédictions pour le Super Bowl 55. On va passer les deux équipes au peigne fin et on se retrouve après la pause.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
I got news for you, buddy. We're gonna win the game, I guarantee it.
On est de retour à la zone payante et c'est l'heure des prédictions pour le Super Bowl. Nos trois essais du match aujourd'hui vont être consacrés à cette célébration du ballon ovale. C'est le ballon ovale, hein? Il est en peau de cochon. Et de quelle autre façon on peut le décrire? Peut-être
c'est parfait, la bonne vieille peau de cochon, on sait de quoi qu'on parle.
OK. Aucun doute, Johnny. Bon, ben Jean, on va commencer avec toi. On va commencer avec les Chiefs, si tu veux bien, parce que c'est une deuxième présence au Super Bowl en 2 ans avec un carrière qui vient d'avoir 25 ans. Parlons un peu, si vous voulez bien, les gars des Chiefs de Kansas City et s'ils sont équipés pour retrouver le trône qu'ils ont laissé l'an passé.
Ben écoute, il y a plusieurs forces dans cette formation-là, spécialement offensivement. C'est une attaque qui est ultra explosive. Il y a des marchands de vitesse à peu près partout. Je pense à Tyreek Hill, évidemment, Mecole Hardman. Puis t'as un gars comme Travis Kelce, qui, il faut pas l'oublier, a la meilleure saison des liens rapprochés de tous les temps, à peu près. Là. C'est un joueur qui est vraiment spécial, qui est un cauchemar en confrontation un contre un. Parce que tu sais pas exactement qui tu mets dessus. Si tu mets un demi-défensif, ben souvent il est trop physique puis trop costaud, il va s'imposer physiquement. Si tu mets un secondaire, souvent il sera pas assez rapide. Donc c'est vraiment un problème pour les défensives adverses. Les Chiefs sont jamais sortis.
Puis, juste pour faire une parenthèse, tu parles des receveurs de passe, mais ça se peut qu'en plus Sammy Watkins soit là au Super Bowl.
Ouais, exact. C'est un outil de plus. Mais tu sais, est-ce qu'il va faire la différence? Il va faire la différence? Non, pas nécessairement, mais c'est un outil de plus, tout simplement. Je pense que les Chiefs seraient heureux d'avoir Watkins parce que ça demeure un bon receveur avec un bon gabarit, il a des bonnes mains. Je vois pas pourquoi, s'il est en santé, il le ferait pas jouer, là, tout simplement. Puis c'est ce que je disais, les Chiefs sont jamais sortis d'un match, on l'a vu. Là, une avance de 10-0 tôt dans le match, c'est rien pour eux. Là. Ils peuvent revenir extrêmement rapidement. Puis ce qui est quand même spécial avec leur attaque, c'est une attaque qui fait pas beaucoup de revirements avec beaucoup de jeux à haut risque. Tu sais, il y a beaucoup de joueurs qui touchent au ballon autre que Mahomes. Tu sais, des jeux renversés, des petites passes au receveur. Tu sais, c'est pas une attaque, je dirais, là. Tu sais, c'est une attaque avec un coefficient de difficulté assez élevé. Puis avec ça, ben eux, ils ont pas de problème. C'est pas une équipe qui fait beaucoup de revirements, donc c'est quand même intéressant de ce côté-là. Défensivement, ben c'est une défensive qui est très solide, qui joue de mieux en mieux, qui s'est améliorée tout au long de la saison, très étanche dans les couvertures.
Je suis content d'entendre ça, il y en a pas beaucoup qui disent ça, Jean.
Ouais, mais moi je trouve que c'est une bonne défensive, celle des Chiefs, elle est vraiment étanche dans les couvertures, ils vont forcer des passes qui demandent une précision chirurgicale. Sont capables de mettre de la pression, mais il y a évidemment des faiblesses. La faiblesse principale des Chiefs, pour moi, c'est la défensive contre le sol, même si ça va quand même bien présentement en série. Je pense quand même qu'ils peuvent être exploités de ce côté-là. Puis offensivement, ben même avant la blessure à Eric Fisher, c'est une ligne à l'attaque, je pense que qui peut se faire brasser par moment. C'est pas une ligne à l'attaque ultra physique. Puis je pense que c'est un petit peu le point faible de cette formation-là. Ça et la défensive contre le sol. En dehors de ça, c'est difficile en tabarnouche de trouver des faiblesses dans cette, je dirais, cette attaque ou cette formation-là. C'est tout repose. Ils ont quand même le meilleur joueur de la NFL. C'est aussi simple que ça. Patrick Mahomes est spécial. Il crée tellement de problèmes. Parce que, en tout cas, tu peux pas avoir un plan de match unidimensionnel quand tu vas contre Patrick Mahomes et les Chiefs. Si tu dis, on va jouer de la zone, tu sais, on va donner du terrain, puis à un moment donné, on cassera pas, ça arrivera pas. Patrick Mahomes va te dépecer. Si tu prends trop de chance, puis tu blitzes à tout moment, là aussi, ils vont te faire mal, soit sur des jeux renversés avec les receveurs, parce qu'ils ont tellement de vitesse, ils vont prendre ta défensive à contre-courant. Et évidemment, tu as des problèmes en un contre un avec Tyreek Hill, qui était arrivé à la première rencontre face aux Bucks. Tyreek Hill s'était amusé comme un petit fou. Donc, et j'ai parlé de Kelce, qui est vraiment un problème pour la défensive adverse. Donc, c'est vraiment un casse-tête des affrontés défensives.
Steph, comment tu vois les Chiefs?
Ben, c'est ça. Le seul gros point d'interrogation, comme Jean le disait, c'est la ligne à l'attaque. Tu sais, y a eu le départ l'an passé du centre Mitch Morse. Cette année, Laurent Duvernay-Tardif qui opte pour la clause échappatoire, donc joue pas. Mitchell Schwartz, le bloqueur à droite, qui est hors de combat depuis plusieurs semaines déjà. Puis Andy Reid disait cette semaine qu'il est très peu optimiste à l'idée de le voir revenir au jeu pour le Super Bowl. Il y a un mince espoir, mais c'est plus que mince, là. Puis t'as Eric Fisher, comme Jean le disait, qui s'est blessé au dernier match. Là, ça fait que tout le monde n'est pas dans la bonne chaise. On joue à chaise musicale, mais tout le monde est assis tout croche entre deux chaises. Quand tu joues contre des gars comme Jason Pierre-Paul puis Shaq Barrett, ça peut faire très mal tantôt, là. Ça, c'est vraiment inquiétant du côté des Chiefs. J'ai hâte de voir aussi au niveau du champ arrière, est-ce que Clyde Edwards-Helaire, il est revenu là en finale de conférence contre les Bills, mais il a joué un rôle très, très discret, on ne l'a pas utilisé beaucoup. Est-ce que la semaine de repos additionnelle va faire en sorte qu'il est de retour à 100%? Parce qu'il a été très exploité en début de saison. Je me rappelle le tout premier match, il avait été extraordinaire, là, au-dessus de 150 verges, quelque chose comme ça, au sol. Plus tranquille par la suite, là. Puis Clyde Edwards-Helaire, il a prouvé dans quelques matchs cette saison, entre autres contre Buffalo à la semaine 6, qu'il pouvait courir avec le ballon puis devenir une arme redoutable pour les Chiefs. Mais j'ai trouvé que souvent, on n'a pas nécessairement tourné notre attention de son côté. Donc ça, j'ai hâte de voir là si ça va être une force ou une faiblesse du côté des Chiefs, parce que ça n'a pas été clair cette année de match en match. Jean parlait de la couverture. Ce qui est particulier avec les demi-défensifs des Chiefs, c'est qu'il n'y a pas nécessairement, à part Tyrann Mathieu, de super vedettes dans cette tertiaire-là. Tu sais, Mathieu, oui, est partout sur le terrain. On l'amène près de la boîte, on l'éloigne en couverture de passe, il peut être partout. Mais t'as des gars aussi très polyvalents à côté
Steph,
de lui.
Steph, j'ai vu une statistique cette semaine. Ouais. Tyrann Mathieu, il s'est aligné partout sur le terrain, oui, officiellement, même debout à la position de ce que souvent on appelle les noses.
Les edges.
Les edges, mais aussi à l'intérieur.
C'est
hallucinant. C'est vraiment un couteau suisse.
Ouais, c'est fantastique. Puis sans être aussi polyvalent, ben les gars qui l'entourent, je pense à un Daniel Sorensen, je pense à un Lajarius Sneed, recrue qui a été choisi en quatrième ronde, qui connaît une très, très bonne saison recrue. Lui, on peut l'aligner aussi pour couvrir l'ailier inséré. On peut le mettre à l'extérieur. On l'emploie aussi comme maraudeur à l'occasion. Il est capable aussi de jouer proche de la boîte. C'est des gars, bref, qui peuvent jouer un peu partout sur le terrain puis qui permettent au coordonnateur défensif, Steve Spagnuolo, de masquer un peu ses couvertures puis ses fronts. Ça peut être très déterminant dans un match comme Tom Brady. Vous allez me dire, ouais, mais Tom Brady, il n'y a rien qu'il n'a pas vu dans sa carrière. Ça fait 60 ans qu'il joue et qu'il dépèse toutes les sortes de défensives imaginables. Oui, mais si tu peux le confondre, ça va grandement aider ta cause, là. Puis la clé là, chez les Chiefs, ça a souvent été le cas dans les matchs contre Tom Brady. Si on est capable d'appliquer la pression à quatre joueurs contre Tom Brady, c'est souvent là qu'on peut se permettre d'être plus agressif en couverture puis de réaliser des revirements, là. Est-ce que les Chiefs peuvent le faire avec un Frank Clark, un Chris Jones? Ils ont des atouts. Frank Clark, qui semble allumer le moteur au bon moment, on l'a très peu vu cette saison, là, très, très timide. Puis en série, il a vraiment répondu plus présent à l'appel. Là, je pense qu'il y a eu deux sacs contre les Bills en finale de conférence. Donc ça va être deux joueurs à surveiller parce que il y a deux grands joueurs en défensive chez les Chiefs, Chris Jones et Tyrann Mathieu. Si ces deux-là fonctionnent à plein régime, ça va inspirer tout le monde autour. Donc, c'est la chose à surveiller. Sinon, ben écoute, comme Jean le mentionnait, la défensive contre le sol fait peur, mais les Bucks, c'est pas nécessairement une équipe qui oui, elle attaque avec le sol, mais c'est pas une équipe qui s'accroche longtemps au jeu au sol. Tu sais, on le voit souvent, une course sur un premier essai, après on se tourne vite vers la passe. Donc, je pense pas que c'est une équipe qui forcément peut menacer là, vraiment dangereusement les Chiefs à ce niveau-là.
Les entraîneurs, vous autres, est-ce que ça va être un enjeu dans ce match-là? Est-ce que parce que les Chiefs sont quand même sur papier bien coachés avec autant défensive qu'Andy Reid à l'attaque, celui qui appelle les jeux?
Je parlais de Spagnuolo, juste un point sur ça, le coordonnateur défensif des Chiefs. Faut savoir qu'en carrière, il y a quand même 3 victoires, 2 défaites contre Tom Brady. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent en dire autant. Le Brady a pas mal figuré toutes les défensives à travers les âges. Puis Spagnuolo a eu le don d'être capable d'amener ses joueurs à appliquer la pression là, sur Brady. Il a été victime de 13 sacs dans ces 5 matchs-là. Donc ça, pour moi, c'est signe qu'il connaît bien comment attaquer Brady. Puis il y a eu le fameux Super Bowl de 2007 là, dont on parle encore aujourd'hui. C'était lui le coordonnateur des Giants, mais il y a eu d'autres matchs depuis là où il a répété la recette à succès. Donc ça, c'était surveillé là, du côté des entraîneurs.
OK, maintenant, on y va avec notre deuxième essai, les gars. On passe à Tampa Bay, l'équipe hôtesse ou l'équipe hôte du Super Bowl, curieusement, cette année, qui auront la chance de jouer devant leurs partisans. Ou ce qu'il y en aura de partisans. Analysons cette équipe. On va commencer par Steph. Tiens, on commence. Est-ce qu'on commence par Tom Brady ou on a déjà tout dit sur lui?
Ouais, ben pas mal. Tout a été dit, mais il faut parler des gens qui l'entourent quand même, parce que les Buccaneers, c'est beaucoup plus que Tom Brady à l'attaque. C'est une offensive qui est carrément monstrueuse là. C'est pas pour rien qu'il a choisi d'aller là, Brady. Des receveurs d'une grande qualité. Là. T'sais, on parle de Mike Evans, Chris Godwin. Tantôt, tu parlais de Brown. On ne sait pas encore s'il va être en uniforme, blessé au genou. Pour l'instant, je pense qu'il s'entraîne toujours pas au moment où on s'enregistre, mais c'est un cas, là, disons, 50-50. Mais après ça, tu as Scotty Miller, tu as Tyler Johnson. Il y a des armes, ça finit plus. Les ailiers rapprochés sont vraiment spectaculaires aussi. Là. T'sais, Rob Gronkowski a ralenti, mais il est toujours capable de bloquer à un haut niveau. Cameron Braid qui s'est bien développé là, dans cette attaque-là. Puis, il y a une bonne ligne offensive autour de Tom Brady. Ça, c'est vraiment un point important. Je pense que ça va être un élément clé dans la rencontre. Il a été bien protégé cette saison, mais je le mentionnais, contre les défensives de Spagnuolo dans sa carrière, ça a souvent été un problème. Donc ça va être un enjeu à surveiller. Puis défensivement, ben, les Bucks, c'est simple, là, tu peux pas courir contre eux, c'est une muraille. C'est très difficile de les percer au sol avec un gros plaqueur format géant, là, un 345 livres, Vita Vea, il y a rien qui passe dans le milieu. Puis des secondaires exceptionnels, là, vraiment, Devin White puis Lavonte David. Je suis pas sûr à travers toute la ligue qu'il y a un tandem de secondaires à l'intérieur qui est aussi athlétique que ces deux-là. C'est vraiment des joueurs qui sont agressifs vers le ballon. Ils vont se faire prendre les culottes à terre à tout bout de champ. Là. C'est dans la nature agressive de leur jeu. Mais ils sont capables de générer des revirements. White, par le passé, là, qui a été une machine à ce niveau-là. Puis ça, c'est la clé. Tu regardes les Buccaneers. Ils ont marqué des points. Je pense qu'ils ont compté 41 points dans les présentes séries seulement. Là. Je parle même pas de la saison. 41 points dans les séries à la suite de revirements provoqués par la défensive. C'est majeur. Donc, honnêtement, là, ça, c'est le gros point dans ce match-là. Puis, heureusement pour les Chiefs, comme le mentionnait Johnny, sont très avares côté revirement. Donc, c'est un élément là, très fort qui joue pour les Bucks. Mais les Chiefs sont capables quand même de se défendre de ce côté-là.
De mon côté, ben écoute, moi je pense qu'ils ont probablement la meilleure boîte ou dans le top 3 des meilleures boîtes défensives de la NFL. Puis j'aime comment la défensive est bâtie. C'est une défensive qui est bâtie sur la vitesse. Ils vont faire des erreurs, spécialement dans la tertiaire par moment, mais c'est une défensive qui fly à la balle, comme on dit. Ils ont une poursuite incroyable. Il y a beaucoup de choses qu'ils réparent par le fait qu'ils sont agressifs puis qu'ils s'en vont 11 au ballon à chaque jeu. Ils ont des joueurs, comme Steph l'a mentionné, là, dominants défensivement. Écoute, Devin White, c'est un mangeur d'enfants. Quand il joue à LSU, ben, ça n'a rien changé dans la NFL. C'est exactement la même chose. Shaq Barrett, Jason Pierre-Paul, on l'a vu dans le match contre les Packers. Ils peuvent se sauver avec la rencontre puis être absolument dominant. Puis c'est sûr qu'avec la situation de la ligne à l'attaque des Chiefs, c'est une des confrontations qu'il faudra surveiller de très, très près, parce qu'il n'y a rien qui est aussi tannant que deux joueurs de ligne sur les edges qui mettent de la pression constante. Un, souvent, tu peux faire avec. Deux, ça devient très, très difficile. Et là, ça devient vraiment compliqué le casse-tête du côté des Chiefs. Ils ont des faiblesses, par contre. La tertiaire, moi, je pense que c'est un peu ce qui est exploitable, et fort heureusement pour les Chiefs, ben, ils ont une attaque aérienne dominante. Ils n'ont pas de shutdown corner, eux non plus. Tu sais, un gars que tu peux me dire, regarde, on va le mettre contre Tyreek Hill, un contre un, puis il n'y aura pas de problème. Ça, ils n'ont pas ça. Donc, l'aspect de jouer beaucoup homme à homme, puis mettre de la pression en blitzant, ça se peut que tu te fasses brûler. Puis par moment, lors de la première rencontre, c'est ça qui est arrivé. Ils ont pris des chances, puis à chaque fois, Hill était là pour dire, écoute, il n'y a pas de marchand de vitesse de votre bord, là. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller de près également. Mais c'est une attaque qui est différente aussi de celle des Chiefs. Moi, je trouve qu'elle est moins explosive, mais qu'elle contrôle un peu mieux le ballon, puis elle est mieux équilibrée. J'aime l'attaque au sol. Ils ont des gars pas fins aussi sur la ligne d'attaque. Ryan Jensen, c'est un gros pas fin, le joueur de centre des box. Il joue avec une solide attitude. Puis je pense que c'est répandu sur la ligne d'attaque au complet de Tampa Bay. C'est toujours quand il y a quelqu'un qui est vraiment agressif comme ça, souvent c'est quelque chose qui est contagieux. Puis je trouve que moi j'aime beaucoup l'attitude des box sur la ligne d'attaque. Ça fait en sorte que ça va garder aussi les joueurs des Chiefs sur le qui-vive. Si tu sais pas s'ils vont courir ou passer, ben ça devient plus difficile de mettre de la pression sur Brady. À ce moment-là, moi, je pense que dans le match, la tacle au sol des Bucks est vraiment importante. Un, pour contrôler l'horloge, puis éviter évidemment de mettre trop souvent l'attaque des Chiefs sur le terrain, et un peu pour contrôler ce que les Chiefs font très bien en défensive, c'est-à-dire mettre de la pression sur le carrière.
OK, troisième essai, les gars, on y est. Après toutes les spéculations, après les dernières semaines, début de l'année, tout le monde y est allé de ses prédictions. Vous l'avez choisi en début de saison, l'équipe des Chiefs qui serait au Super Bowl. Est-ce que vous nous arrivez avec une surprise aujourd'hui dans le troisième essai, à savoir qui gagnera le Super Bowl 55?
Ah, c'est pas le moment de lâcher, mon Jean-Nic. Moi, je vais continuer, je vais m'entêter, là. Je sais que miser contre Tom Brady en série, c'est pas l'idéal. Je l'ai fait la semaine passée, ça m'est revenu d'en face. Moi, j'étais convaincu que les Packers allaient éliminer les Bucks. C'est pas arrivé. Mais je continue de penser que les Chiefs ont trop d'armes, tout simplement. Tu sais, on parlait, Jean vient de parler à l'instant de la tertiaire qui peut très bien performer, mais qui est parfois douteuse aussi des box. Ça a été très inégal, puis il y a une raison là pour ça. C'est de bons jeunes joueurs. Mais tu regardes, là, qu'on parle de Carlton Davis, D'Antoine Winfield, Jordan Whitehead, Jamil Dean, Sean Murphy Bunting, qu'est-ce qu'ils ont tous en commun, ces demi-défensifs-là? Il n'y en a pas un qui a été repêché avant 2018. Donc, c'est tous des jeunes joueurs qui sont, pour certains d'entre eux, en ascension. Je pense à Winfield, je pense à Carlton Davis, entre autres. Murphy Bunting, qui est très opportuniste, qui a 3 interceptions dans les présentes séries. Mais le manque d'expérience pourrait faire très mal contre une attaque aussi explosive et rapide que celle des Chiefs. J'ai l'impression que c'est là que ça va jouer. Puis si tu joues homme à homme, mur à mur, non seulement tu risques de perdre les confrontations par la vitesse, mais il y a un dénommé Patrick Mahomes qui va voir les demi-défensifs dos au jeu, puis qui va se faire un plaisir de gambader dans les bris. Là, ça, c'est l'autre affaire qui peut arriver, dont on n'a pas tenu compte jusqu'à maintenant. Il y a tout simplement trop de vitesse, trop d'explosion, trop de dynamisme au sein de l'attaque des Chiefs. Puis je continue de croire que même la défensive des Chiefs est sous-estimée, qu'elle peut appliquer la pression, déranger Tom Brady. De mon côté, j'y vais avec une victoire des Chiefs, un match quand même à haut pointage, un genre de 34-30. Ça va être serré parce que du côté des Buccaneers, c'est quand même une attaque idéale pour attaquer les Chiefs, au sens où l'entraîneur-chef Bruce Arians, dont on a peu parlé jusqu'à maintenant, un gars qui adore le risque. Lui, il ira pas là pour ne pas perdre, il va aller là pour gagner. C'est un gars, son fameux slogan, lui, « No risk it, no biscuit », j'adore parce qu'il l'applique. Combien de fois on voit les Bucs sur un troisième essai et deux verges à gagner, tenter la longue passe puis réussir? Ils prennent les défensives comme ça à contre-courant, à répétition. Une attaque agressive contre les Chiefs, ça va permettre aux Bucs de rester dans le match là, vraiment tout le long. Puis je pense que ça va se jouer ce duel-là jusqu'à la toute fin, mais je conserve ma prédiction de début de saison. Donc, les Chiefs, une victoire serrée là, par moins d'un touché.
Johnny?
Écoute, les Chiefs, ce qui est plaisant, les gars, du Super Bowl cette année, c'est quand Tom Brady joue au Super Bowl, 6 des 9 Super Bowls qui a participé se sont décidés par 4 points ou moins. Les 9 ont été serrés. Le moins serré, c'est celui d'il y a 2 ans entre les Rams et les Pats. Ça avait terminé quand même par 10 points. Puis, tu sais, les Rams avaient été quand même dans le match.
Donc, oui, ça s'était décidé pareil au quatrième quart.
Exact, exact. Donc, je pense qu'on peut déjà affirmer que ça risque d'être un match serré qui va jouer à la toute fin. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je vais y aller, les gars, contre mon impulsion, là, je dirais, en temps normal. Moi, je choisis souvent l'équipe qui a les meilleurs fronts dans ces matchs importants-là. Et pour moi, ce sont les Bucs qui sont les meilleurs, autant sur leur ligne en attaque que sur la ligne défensive. Et je vais aller contre cet instinct-là et je vais choisir quand même les Chiefs parce que je pense que Patrick Mahomes est tout simplement un joueur tellement spécial. Je pense qu'il est en mesure de combler cette ligne à l'attaque-là qui est un peu amochée. Je pense qu'il est tellement bon qu'il va être en mesure d'étirer quelques jeux. Et avec son bras ultra puissant, il va être en mesure de trouver des receveurs. Si les Bucs veulent jouer un peu trop de défensive de zone, c'est aussi ce bras canon-là qui fait que c'est très difficile contre les Chiefs. Souvent dans les zones intermédiaires, le ballon arrive tellement rapidement que les demi-défensifs n'ont pas le temps d'aller au ballon pour faire un jeu. Donc, je choisis Patrick Mahomes qui va justifier son salaire, messieurs, parce qu'il a quand même le plus gros contrat de l'histoire du sport professionnel. Puis, je vais choisir le jeune dauphin qui va battre le meilleur carrière de tous les temps en Tom Brady. Et j'ai les Chiefs 31-27 dans un match plutôt offensif. L'autre dernier point, Jean-Nic, si Patrick Mahomes, je sais que tu vas pas dans ce match-là en ayant ça dans la tête, mais si Patrick Mahomes veut devenir le meilleur carrière de tous les temps ou le meilleur joueur de la NFL de tous les temps,
ben, faut que je batte Tom Brady.
Il n'y a pas le choix, là. Tu peux pas perdre contre Tom Brady âgé de 43 ans, là.
Non, mais il y a encore 4-5 ans pour le battre, par exemple.
Oui, mais il n'y a pas le droit de perdre tout simplement contre Tom Brady âgé. C'est aussi simple que ça. S'il veut être dans cette discussion-là, ben, il n'y a pas le choix de gagner cette rencontre-là. Même si c'est un jeu collectif, c'est sûr que les gens vont parler beaucoup de Patrick Mahomes de façon individuelle. Donc, j'ai les Chiefs qui l'emportent 31-27 avec Patrick Mahomes qui fait la différence parce que c'est le meilleur joueur de la NFL.
Bon, imaginez les gars, hey, imaginez 2 secondes que dans 5 ans, on est sur le même podcast, la zone payante, puis qu'on parle du 3e affrontement au Super Bowl entre Brady et Mahomes. Rendu à ce stade-là, moi, je me dis que c'est pas impossible, on sait pas.
Bon, ben moi, en tout cas, je vais faire un peu de pouce là-dessus parce que je sais que tout le monde regarde ce duel-là, là, Brady et Mahomes, la 43 ans contre 25 ans, l'expérience contre la jeunesse, mais Jean l'a dit, là, ça va se jouer dans les tranchées, là, ce match-là. Je pense que la tranchée des Chiefs est trop faible à l'attaque. Puis, oui, Patrick Mahomes, on voit ses stats quand il doit sortir de la pochette ou quand il roule à droite. C'est vrai là, qu'il y a des très bonnes stats, mais à un moment donné, il pourra pas là, tout faire. Je sais qu'il est bon, là, je sais qu'il a un bon bras, mais il est moins mobile qu'en début de saison. Son pied n'est pas à 100%. Je comprends qu'on a vu dans le dernier match que ça l'avait pas trop embêté, mais on voit qu'il court moins, il prend moins une décision d'aller chercher le premier jeu quand il est dans le trouble. Jason Pierre-Paul, il a joué tout un match il y a 2 semaines. Je m'attends autant de lui cette semaine. Est-ce qu'ils vont seulement garder la pression à 4? Ils vont peut-être utiliser la défensive de Spagnuolo pour...
S'ils sont capables de mettre la pression à 4, ils vont faire seulement de la pression à 4.
Ça, bon, c'est super. Ben alors, moi, je pense que ça va être le cas. Anthony McKinsou, on en parlait, un des gars qui était identifié comme le meilleur joueur en défensive à une certaine époque. Il n'y a pas 100 ans. Il est encore excellent. Il fait juste son rôle. Il est à peine doublé. C'est pas son rôle de mettre de la pression sur le corps arrière, mais quand même, là, il ajoute de la pression sur la ligne. Je pense que la défensive, la ligne offensive des Chiefs, qui est mêlée comme un jeu de cartes avec le départ de Fisher, va en avoir plein les bras. Puis j'ai regardé, les Bucks qui ont quasiment pas de blessés. Ils ont presque pas eu de blessés pendant la saison.
On est en santé.
Je comprends qu'ils ont une semaine de plus des Chiefs pour se remettre, mais on voit qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui risquent de faire un retour au jeu.
En fait, côté bilan de santé pour les Bucks, là, il y a Antonio Brown, on en parlait, mais les deux maraudeurs partant quand même, Antoine Winfield puis Jordan Whitehead, qui sont des cas incertains. J'ai l'impression qu'ils vont jouer là, parce que c'est le Super Bowl, mais juste pour le mentionner quand même, c'est pas des joueurs qui risquent d'être à 100%.
Puis la dernière chose aussi, peut-être que je suis dans ma tête, là, mais on dirait que la pression est sur les Chiefs cette année. C'est ça, son favori au preneur au livre, son champion en titre. Puis on dirait que c'est ça que je sens qu'à la fin de match, ça va encore faire une différence. Il risque d'avoir ça va être un match serré, vous l'avez dit, puis je pense qu'à la fin du match, il va y avoir un Tom Brady qui va ressortir avec l'expérience, ou en tout cas qui va donner une confiance à son équipe, qui vont jouer avec plus de confiance, puis qui vont forcer les Chiefs à faire une erreur. Victoire de Tampa Bay par un touché, 34-27 en fin de match.
Fait que là, c'est un 7e Super Bowl pour Tom Brady.
Écoute, comme partisan des Dolphins, tu sais à quel point ça me brise le cœur d'être obligé d'admettre ça. Mais je suis obligé. Puis vous le savez, là, depuis le début de je pense que Tampa Bay va se rendre jusqu'à la fin. Je vois encore Tom Brady lever la tête, choisir son receveur. Ils ont des options à l'attaque. Je pense que les deux défensives vont avoir du fil à retordre. Là. Remarque, là, dans ce match-là, il va avoir beaucoup de points. Mais qu'à la fin, Tom Brady n'aura pas de difficulté à traverser le terrain s'il lui manque un toucher. Des Tampa Bay Buccaneers.
Tout ce que je peux mentionner peut-être de plus sur la ligne à l'attaque qui est un peu amochée du côté là, des Chiefs, c'est qu'ils n'ont pas besoin de jouer 3 ou 4 rencontres comme ça. T'sais, ils ont juste besoin de jouer un bon match. Ça, au niveau de la motivation, je suis certain que les réservistes vont répondre présent. Est-ce qu'ils vont être en mesure de le faire? Ça, c'est une autre question.
Je te corrigerais une seconde. Je te dirais, ils n'ont pas besoin de jouer, tu as raison, 3-4 matchs, mais ils ont besoin de jouer 4 quarts.
Oui, ça, c'est sûr. Mais ils ont eu une semaine additionnelle pour se préparer. Ça aussi, faut pas non plus. Là, je pense que dans le cas des Chiefs, ça va les aider pour justement. Essayer de trouver la bonne formule pour garder Patrick Mahomes intact dans cette rencontre-là. Mais c'est sûr et certain qu'il va avoir de la pression à un certain moment donné. C'est juste pas possible qu'il soit en mesure, je pense, de protéger Mahomes de façon parfaite.
Oui, peut-être de façon égoïste aussi, avoir le Super Bowl pour une deuxième fois au Québec en 2 ans avec Antonio Clark qui pourrait ramener le trophée.
C'est la bonne nouvelle si les Bucks l'emportent, ouais. Absolument.
Effectivement. Puis juste dernier point sur la ligne des Chiefs, faut pas oublier une chose non plus, messieurs, c'est que l'an passé, la ligne avait connu de grosses difficultés au Super Bowl contre les Niners. Les partants étaient pourtant en uniforme, puis les Niners avaient un front, à mon avis, encore plus redoutable que celui des Bucks. Ça avait bien été quand même pour les Chiefs, donc... Avec Mahomes, je pense que c'est le corps arrière idéal pour affronter une situation comme celle-là. Tu sais, il est pas invincible, mais ce qu'il a démontré au Super Bowl l'an passé avec une ligne à l'attaque qui n'a pas connu son meilleur match, loin de là, contre les Nick Bosa, Forrest Buckner et compagnie, là, c'était un gros front, celui des Niners, puis ça a quand même très bien été.
OK, on verra. On fera un bilan de ça, les gars, la semaine prochaine après le Super Bowl.
Une chose est certaine, Jean-Luc, c'est qu'on va être déçu si on n'a pas un match serré. Parce que sur papier, c'est un des meilleurs affrontements d'avant-match que j'ai vu. Tu sais, un jeune dauphin contre le vieux vétéran, Mahomes versus Brady. Il y a des stars partout en attaque et en défensive. On s'attend, moi je m'attends à du gros football. Je vais être extrêmement déçu si on n'a pas un bon match.
OK, dans un bon match, des fois, il arrive des choses qu'on n'avait pas prévues, mais nous, à la zone payante, on va essayer quand même de les prévoir. Est-ce que vous avez ce qu'on appelle là, des bold predictions, là, des prédictions audacieuses, là, quelque chose là à Vegas, là, que si on gage 10 piastres là-dessus, on est riche après le Super Bowl. Qu'est-ce qui pourrait arriver pendant le Super Bowl qui serait surprenant et puis que personne n'a vu venir? Mais à part vous deux, évidemment.
Je vais me lancer.
Ah oui, donc?
Il n'y aura aucun revirement dans la rencontre. Aucun. Il n'y aura pas d'interception. Il n'y aura pas d'échappée. Les deux attaques vont être très clean. Ils vont jouer de propre. Ils vont faire attention au ballon. Ils vont se faire arrêter par moment. Mais il n'y aura pas de revirement. Je vais juste me donner une porte de sortie. Les quatrièmes essais ne comptent pas. Donc, si une équipe va sur un quatrième essai, je ne le compterai pas comme un revirement comme c'est le cas normalement. Mais pas d'interception puis pas d'échappée.
C'est bon. OK, Steph, on va y donc avec une bold prediction.
Écoute, moi, j'allais à l'inverse de Jean. Je me dis que Tom Brady, puisque les Bucs vont être très agressifs, va accumuler au-dessus de 400 verges, mais va lancer au moins deux interceptions.
Ouh, c'est
ouais, je pense que ça va être ça. Ils sont très agressifs, mais ça ouvre la voie aux erreurs aussi là. Puis tu sais, sur des longues bombes des fois là, c'est 50-50, c'est le style des Bucks. Puis une autre titre comme ça, là, une bold prediction. Je reviens souvent avec le terme agressif parce qu'autant les Chiefs que les Bucks, c'est leur style à l'attaque. Le premier touché dans ce match-là va se marquer en moins de temps que va avoir duré l'hymne national, tiens.
Ouh, plus vite que le touché contre les Denver Broncos avec Manning, que le ballon il passe par-dessus la tête?
Ça avait été assez vite, merci, ça aussi, là, quand même. Mais ça va être dans ces eaux-là.
Parfait. Très bon.
Je vais y aller avec une dernière de mon côté également. Travis Kelce va avoir plus de 150 verges de gain par la passe.
Pas de misère à le croire, ça.
Ouais, est-ce que c'est vraiment une bold prediction, ça?
Ben, OK, je vais t'en donner une autre. Si les Bucks gagnent le Super Bowl, c'est Leonard Fournette qui va être le MVP.
Ouh, ça c'est bon. Ça c'est bon. OK. OK, merci Jean, merci Steph. Fait que bon match à vous deux. On va faire le bilan de tout ça, comme je disais tout à l'heure, la semaine prochaine. On va avoir un autre épisode de la zone payante. Alors, on vous invite à être là. Après la pause, il y a d'autres histoires qui se passent dans la NFL quand même. L'actualité continue. On va traiter de ça dans notre quatrième essai. Restez là.
Gardez le nez dans vos affaires avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, à vos affaires, en balado sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio.
IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
On est de retour à la zone payante et on est au quatrième essai dans notre match football à quatre essais. On va peut-être commencer le football à trois essais avant le football à quatre essais, on l'espère. Hein? Petite parenthèse, mais la CFL là, qui espère reprendre leurs activités avec des gens dans le stade, c'est pas fait. Là, mais bon, on verra bien ce qui se passe au mois d'avril-mai. Est-ce que vous avez été surpris de l'échange de Matthew Stafford? On dirait que la NFL est toujours due pour un gros échange à ce moment-ci de l'année. Matt Stafford, qui est un corps partant pour les Lions de Détroit, a échangé contre un autre corps partant, Jared Goff, à Los Angeles. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet échange et qui a gagné l'échange?
Écoute, oui, j'ai été surpris pas que Matt Stafford change d'adresse parce qu'on le savait que c'est ça qui allait arriver. Mais moi, j'ai été surpris de l'ampleur de la transaction parce que je pensais pas honnêtement que Matthew Stafford valait autant. Et c'est pour ça que je donne mon vote aux Lions. Je pense que c'est eux qui ont eu le dessus dans la transaction. Écoute, deux choix de première ronde, plus quand même un partant qui est quand même décent. Là, Jared Goff, c'est pas non plus un pied de céleri. C'est un bon quart arrière, mais c'est pas. On s'entend que c'est pas Mahomes ou c'est pas Mahomes. Mais
il y en a juste un Mahomes, par exemple. Ouais, faut que t'entends.
Jared Goff, c'est pas Patrick Mahomes. C'est aussi simple que ça. Mais écoute, du côté des Rams, faut regarder le verre soit à moitié plein ou à moitié vide. Quand tu regardes la transaction, c'est sûr que tu as hypothéqué un peu l'avenir, encore une fois, des Rams. C'est maintenant ou jamais. Est-ce que Matthew Stafford va transformer cette formation-là puis leur donner un Super Bowl dans les deux prochaines années? C'est ça, là, la transaction. C'est ça que ça implique. Ils ont quand même une défensive de championnat à LA. Ça, faut pas leur enlever. Et là, tu leur donnes un carrière qui est, selon moi, supérieur à Jared Goff. Donc, c'est sûr qu'ils se sont améliorés. Mais est-ce que, pour moi, ça vaut le fait d'hypothéquer ton avenir? Écoute, les Rams ont pas de choix de première ronde maintenant jusqu'en 2023. Ils en ont pas eu depuis 2017.
En fait, 2024.
Les choix de première ronde, c'est pas cette année, c'est 2022 et 2023, parce que les Rams ont déjà pas de choix de première ronde cette année à cause de l'échange Jalen Ramsey.
Exact. Merci, Steph, pour des précisions. Donc,
ça fait long dans le temps, ça.
Ben, c'est très long. Puis à un moment donné, c'est sûr que ça va avoir un impact sur l'alignement. J'ai de la difficulté, moi, à accepter qu'un directeur gérant puisse mettre en péril l'avenir de ton équipe. Pour moi, une bonne formation, c'est une formation qui est capable d'être bonne longtemps dans le temps, comme les Pats l'ont démontré. Et on sait que les Rams, ça sera pas ça. Même s'ils remportent le Super Bowl, ils seront pas capables d'être très, très bons longtemps. Donc, pour moi, le seul point qui peut amener les Rams à dire que c'était une bonne décision, ben, c'est qui gagne le Super Bowl. C'est all or nothing. C'est le bon vieux tapis au poker. Ils sont all in, les gars, là. C'est aussi simple que ça. Juste vous mentionner aussi un peu comment les Rams ont géré Jared Goff. Jared Goff, depuis qu'il est avec les Rams, ce qu'ils leur ont coûté au total, c'est 4 choix de première ronde, 2 choix de deuxième ronde, 2 choix de troisième ronde. C'est ça qui a coûté Jared Goff, parce qu'au repêchage, ils avaient échangé leur choix pour aller le chercher. C'est gigantesque. Par moi, de mal gérer ta situation, ben, je pense que ça, c'est très mal gérer ta situation. C'est une gestion pitoyable. D'un autre côté, faut quand même donner un peu de crédit à Lesney. Dans les 2 dernières années, il vient quand même de se débarrasser de 2 gros contrats sur son cap, sur le cap salarial. Jared Goff qui vient de donner, évidemment, au Lyon, et Brandon Cooks qui l'a fait l'an dernier.
Steph, Matt Stafford, es-tu vraiment si bon que ça comparé à Jared Goff?
Ben, je pense aussi qu'il est supérieur à Jared Goff. Il y en a beaucoup qui l'aiment plus que moi, apparemment. T'sais, c'est une transaction qui améliore les Rams, en effet, là, je suis d'accord là-dessus. Mais est-ce que tu gagnes le Super Bowl avec Matthew Stafford? Moi, je suis pas convaincu de ça du tout. J'ai hâte de voir. T'sais, on dit souvent il a été mal entouré à Détroit. Il a quand même joué avec des receveurs extraordinaires là, pour une bonne partie de sa carrière. On parle de Calvin Johnson, Kenny Golladay dans les dernières années, Marvin Jones. Il y en a eu plusieurs qui sont passés là puis qui ont produit avec lui. Ça a été la défensive souvent le problème. Puis là, il n'y a plus ce problème-là avec les Rams. Donc ça, c'est un gros plus de son côté. Mais est-ce que c'est lui vraiment qui t'amène au prochain niveau? Alors qu'il a toujours pas gagné un match de série, il a fait 3 fois les séries en 12 ans avec Détroit. Je suis juste pas convaincu. Là. Pour mettre autant de billes dans une transaction, il faut que tu aies l'assurance que tu as été chercher un gagnant prouvé, un gars qui va vraiment là, changer complètement l'allure d'une équipe. Puis c'est pas nécessairement là, ce qu'on a vu avec Détroit pendant toutes ces années-là. Puis Stafford, faut pas oublier un point. Oui, c'est un tough. C'est un dur à cuire, ça, là. Personne ne peut y enlever. Il joue blessé, mais justement, souvent, il est blessé. Il y a souvent quelque chose, un bobo quelque part qui l'empêche de performer au niveau optimal. Ça, à un moment donné aussi, ça affecte la qualité de son jeu. je sais pas s'il va pouvoir demeurer en santé avec les Rams. Ça, il n'y a rien qui le garantit. Puis, tu sais, c'est pas de sa faute là, quand il se met à tomber en morceaux non plus. Mais ça reste un élément à considérer dans cette transaction.
C'est sûr qu'il était dans une équipe tout croche depuis des années. C'est, ça va peut-être lui faire du bien d'être dans une meilleure organisation. Là.
Oui, tu sais, on va voir enfin, je pense, ce qui vaut vraiment à 100%.
Ben, il est pas trop vieux encore. Là. Je pense qu'il est début trentaine. Là.
Il a 33 ans, mais on le sait, les corps arrière, avec la nutrition, avec les techniques d'entraînement d'aujourd'hui, peuvent jouer quand même de plus en plus longtemps, sont mieux protégés aussi par les règlements. Cela dit, Stafford, comme je le mentionnais, c'est un gars qui a quand même mangé des coups là, au fil des ans, qui a eu sa part de blessures. Donc,
mais manger des coups, manger des coups, c'est du keto?
Ah, je sais pas c'est quel régime alimentaire, mais à un moment donné,
ça traite très mal.
Ça traite très
mal. T'es-tu d'accord, Stéphane, pour dire que la seule chose qui justifie cette transaction-là, c'est presque un Super Bowl là, pour les Rams?
Ah oui, il n'y a rien d'autre. Là. Tu peux pas dire, ouais, mais on a gagné, nous amenant en série. Ouais, so what? Vous y alliez déjà en série avec Jared Goff. Donc, le but, c'est d'aller gagner le gros trophée. Puis si c'est pas atteint, ben c'est un échange qui n'aura pas fonctionné tout simplement pour les Rams. Moi, je le vois en plein comme ça.
OK, mais je voudrais aussi parler d'un petit aspect qu'on a échappé pendant la transaction, mais après la transaction, il y a des journalistes qui rapportaient que Matthew Stafford était prêt à aller n'importe où, sauf en Nouvelle-Angleterre. Là, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il commence à avoir une espèce de mauvaise vibe là, vers les Pats. Est-ce que vous sentez la même chose?
Pas forcément. Moi, je te dirais que Stafford, il a vécu les trois dernières années sous le régime de Matt Patricia, exact. Qui provenait de l'école des Patriots. Il a trouvé ça étouffant. Je voyais une entrevue avec un ancien coéquipier de Stafford qui est demeuré très proche de lui, TJ Lang, le joueur de ligne offensive. Il disait que Matthew Stafford actuellement était drainé autant physiquement qu'émotivement des années de Patricia. Donc, je pense qu'il n'a juste pas voulu se retrouver un peu dans cette culture-là à nouveau. Là, je pense pas que c'est tous les joueurs de la NFL qui se disent « Ah, moi, les Patriots, je touche plus à ça, c'est fini. » C'est pas la question. Là, je pense que dans le cas de Stafford spécifiquement, c'est ce qui a fait en sorte que c'était dans sa liste des équipes indésirables, si on veut.
Deshaun Watson, lui, il suit ça avec intérêt. C'est en fait cet échange-là, puis tous les pourparlers pour les carrières autour de la Ligue. Là, on parle de Derek Carr aussi, qui pourrait être échangé à Las Vegas. Là, Deshaun Watson a retiré, là, on est toujours à l'affût du moindre signe, mais il a retiré connotation de son équipe de football sur ses réseaux sociaux. Si Matthew Stafford vaut un quart partant dans la NFL, deux premiers choix au repêchage avec un troisième choix, ce qui est pas banal quand même, deux premiers choix puis un troisième choix, que vaut Deshaun Watson en ce moment sur le marché des échanges?
Ben c'est simple, il vaut ta maison, ton char, tes enfants, ton chien puis même ta TV.
Pas ma 60 pouces!
Ouais, il prend tout. Il prend...
Non.
Mais
il va rester votre femme, les gars.
On fera pas de blague au cas où elle écoute.
Blague à part, honnêtement.
Penses-tu qu'il partirait avec les sacoches de ta blonde, Jean?
Ah, je pense qu'il prend tout. Moi, il se pose même pas de questions.
Mais là, juste les sacoches, d'après moi, ça a une bonne valeur. Peut-être que tu pourrais sauver un enfant.
Peut-être. Écoute. C'est sûr que ça commence à être presque démesuré aussi, la valeur de Deshaun Watson là, avec cet échange-là avec les Rams. C'est sûr que tu as payé aussi les Lions qui prennent le salaire de Goff. Ça, on s'entend. Ça, c'est sûr que ça a une partie de l'équation.
Le salaire de Watson n'est pas bien plus moins élevé, par exemple.
Non, mais tu as quand même un carrière qui va être là pendant longtemps, là, qui va être là pendant les 8, 9, 10 prochaines années.
Ouais, puis Watson, c'est quand même beaucoup plus sa valeur que celle de Goff.
C'est sûr.
Exact. Dans son prime aussi, c'est là que ça joue. Deshaun Watson va jouer dans ses meilleures années avec la prochaine équipe s'il se fait échanger. Moi, je regarde ça. Puis je sais pas à quel point c'est si une bonne situation pour Watson parce que ça pourrait quasiment faire peur à certaines équipes de savoir qu'il faut encore plus dépenser pour aller chercher un carrière de ce type-là. L'autre point que je vois, moi, je pense, c'est les Texans. Les Texans, quand tu vois ça, tu vois la valeur que peut avoir Watson, c'est encore plus important qu'il soit patient, qu'il se laisse pas aller par les médias ou une pression extérieure. Il faut qu'il aille chercher le meilleur deal possible s'il décide de l'échanger. On a déjà vu que le coach et le directeur gérant on mentionne, surtout le directeur gérant qui a mentionné que Deshaun Watson était encore dans les plans. Mais c'est sûr que s'il veut pas jouer, qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses-tu un an à être sur le banc ou sur son divan à la maison? C'est une bonne question. Mais moi, je pense que tu joues la patience. Il est là. Il est avec toi longtemps. Tant que tu n'as pas ce que tu veux exactement, tu l'échanges pas.
Puis là, Jared Goff, on comprend qu'il n'y avait pas de clause de non-échange, mais Steph, Deshaun Watson, sa clause de non-échange, là, elle enlève un peu de bargaining power quand même au Texan. Là.
Ben, c'est-à-dire que Watson peut dire non, pas question, moi, que vous m'échangez aux Jets ou pas question que vous m'échangez en Caroline. Là, c'est fictif, là, ce que je dis. Là, c'est pas ce que lui a dit. Mais il a le droit de veto sur sa destination, finalement. Ça complique les choses, effectivement. Maintenant, tu sais, qu'est-ce qu'il vaut? Les Texans vont vouloir se retrouver avec un corps arrière dans la transaction. Pas nécessairement un corps vedette, là, c'est pas la question, mais un corps qui est capable de jouer là, puis de tenir son bout pendant au moins une saison ou deux. Puis là, je commence à penser que ça va être peut-être 3 choix de première ronde avec ça, là.
On a appris, en tout cas, avec l'échange, moi j'ai appris avec l'échange de Jared Goff contre Matthew Stafford qu'on pouvait pas échanger des choix de première ronde au-delà de 3 années à venir. Ouais, c'est au moins ça.
À un moment donné, tu peux pas pelleter tout le temps par en avant. Là. Mais donc c'est ça, là, je pense que ça va être, si ça se fait, là, cet échange-là, là, parce qu'on le sait plus à un moment donné, ça va être quelque chose comme ça. Là. Un quart arrière, peut-être 3 choix de première ronde. Puis effectivement, il faut qu'ils soient patients, les Texans. On est rendu au point de se demander est-ce qu'ils peuvent même attendre durant la saison, attendre après la saison? T'sais, est-ce que Watson resterait vraiment un an à bouder chez lui? C'est tout ça là, qui va être important de voir là, dans l'équation là, dans les
prochains. À bouder puis à payer des amendes aussi.
Oui. Oui, parce que rappelez-vous un gars comme Carson Palmer qui avait dit à Cincinnati, moi c'est fini, je joue plus pour vous autres. Le propriétaire à l'époque, il avait dit fine, reste chez vous. Puis finalement, l'échange avec les Raiders était arrivé quelque part au mois d'octobre. Tu sais, il s'était pas précipité nécessairement. C'était pas le même échange du tout, là. Palmer, qui avait à ce moment-là, je pense, 32 ans. Donc lui, il avait été échangé pour un premier choix. Mais Watson, ça risque d'être une situation beaucoup plus complexe.
Wow, en tout cas, on va dire que si en effet, ils prennent leur temps pour l'échanger, on va avoir besoin ben du popcorn pendant les prochaines semaines parce que j'ai l'impression que chaque semaine, il va y avoir des rumeurs. Les journalistes vont fouiller ce dossier-là. Il n'y aura pas grand-chose d'autre à faire que, comme à l'époque de Brett Favre, si Brett revenait de sa retraite, ça va être, est-ce que Deshaun Watson va être échangé?
Ça va alimenter la saison au mort.
Ça, c'est sûr. Un petit mot sur Derek Carr, là. Je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs aussi, de son côté. Est-ce que c'est sans intérêt quasiment Derek Carr à ce stade-ci? Ça n'a jamais été un corps arrière qui a montré quoi que ce soit qui pourrait aider une équipe là, qui manque un corps arrière pour aspirer aux grands honneurs?
Je dirais pas sans intérêt parce qu'il a quand même déjà eu, à un moment donné, il a été blessé, mais il y avait une saison qui était pas loin d'une saison MVP dans la NFL. C'est un bon corps arrière, puis ça reste que c'est pas toutes les équipes qui ont des bons carrières partant. Est-ce qu'il est dans le premier tiers des meilleurs carrières de la NFL? Non, mais il est dans le milieu. Puis c'est quand même intéressant pour possiblement certaines équipes. Donc, on va suivre le dossier de près. Moi, je pense encore qu'il va être... oui, les Bears pourraient être effectivement dans le portrait. Ça serait assurément mieux que ce qu'ils ont présentement. Ça, c'est certain.
Une petite note, messieurs. Hein, j'ai même vu que ça c'est loin d'être fait, mais dans les fameuses rumeurs, parce que là, c'est une chaise musicale pas possible cette année, les corps arrière, dans les rumeurs, on est même rendu à Kirk Cousins qui pourrait quitter les Vikings pour San Francisco dans un échange qui impliquerait peut-être Jimmy Garoppolo, visiblement. Là. Mais parce que Shanahan, le coach là-bas, voue toujours un grand respect à Kirk Cousins. C'est lui et son père, Mike Shanahan, qui l'avait repêché à l'époque avec Washington. semble-t-il qu'il y a une connexion là, puis que c'est peut-être dans des discussions potentielles. Donc, une autre situation à surveiller dans les prochaines semaines.
Bon, puis comme partisan des Vikings, je pourrais te demander, you like that?
Écoute, Kirk Cousins, c'est pas la raison pour laquelle les Vikings font pas les séries cette année, mais c'est pas non plus un grand joueur. Le problème, moi, je l'ai toujours dit dans le cas de Kirk Cousins, les Vikings l'ont payé comme un corps arrière champion alors que c'en est pas un. Mais c'est pas un mauvais corps arrière non plus. Donc, c'est ça, c'est... Je pense que finalement, avec un gars comme Jimmy Garoppolo, il ferait juste un pas de côté.
C'est drôle, il me fait penser un peu à la même chose. Tu sais, Ryan Tannehill, Nick Foles, Kirk Cousins, c'était tous des corps arrière repêchés la même année qui ont tous un peu le même genre de carrière, tu sais.
Mais Kirk Cousins fit très, très bien dans l'attaque des Niners. Il est excellent sur les play-action. Et on sait que c'est une grosse partie de l'attaque des Niners. Ouais. Fait que moi, je serais capable de l'imaginer là, dans l'attaque de Kyle Shanahan.
OK, dernier, qui sera le MVP au Super Bowl? Un petit crush encore vers le Super Bowl. Là. Qui sera le MVP cette année au Super Bowl, d'après vous? Un choix facile puis un choix surprise, mettons.
Ouais, le choix facile, écoute, Patrick Mahomes pour moi, puisque je pense à une victoire des Chiefs. Un choix plus intéressant. Tantôt, je disais que Brady serait victime d'au moins deux interceptions. Si je poursuis dans cette voie de la bold prediction, comme tu le disais, ben pourquoi pas Tyrann Mathieu, tiens. On va lui donner une chance là, de se hisser dans la discussion. Mais j'ai l'impression là, quand même que de façon plus réaliste, là, ça va être Patrick Mahomes qui va tout simplement être le joueur dominant de ce match-là.
Johnny Boy?
Oui, moi aussi, je prends le nouveau Golden Boy de la NFL, Patrick Mahomes. Puis, écoute, j'en ai mentionné, si les Bucks l'emportent, je déteste pas Leonard Fournette. Moi, j'ai l'impression que si les Bucks l'emportent, c'est qu'ils vont avoir une attaque au sol plus que respectable dans cette rencontre-là.
Un running back MVP.
Pourquoi pas? Pourquoi
OK, pas? C'est bon.
Il y a une petite chose qu'on n'a pas parlé que je veux juste effleurer, mais au niveau des unités spéciales, c'est quand même des fois ça peut aussi être un indicateur important de la rencontre. Je donne un léger avantage aux Chiefs. Je trouve qu'ils ont un meilleur batteur, ils ont des meilleurs retourneurs. Mais Mecole Hardman, quand il donne pas de toucher comme c'est la semaine passée, il est excellent, il est dangereux. Donc je donne un petit edge.
Pas d'amour pour Ryan Succop.
Non, beaucoup moins. En tout cas, je pense que le batteur des Chiefs a beaucoup plus de puissance.
T'as jamais élevé Elvis Presley non plus. Là.
Pas si pire.
Ryan Succop. OK. Ben on va faire du pouce sur ta prédiction, Jean. Je vais faire une pré-question quiz cette semaine. Là. Mais qui a été le dernier running back MVP du Super Bowl? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Si tu vois Fournette comme MVP, ça serait le premier depuis le Super Bowl 33.
James White n'avait pas été MVP. Hein?
Non.
Non.
Non, Super Bowl 33, avec ça fait 23 ans.
Emmitt Smith?
Non, Emmitt Smith l'a été, oui, mais après, il en a eu un autre.
Daryl Davis.
Oh, TD, ben oui, c'est vrai.
Et oui, pour les Broncos de Denver. OK, ma question quiz cette semaine. Tom Brady débutera le match à 43 ans. Êtes-vous capable de me nommer un quart arrière qui a été intronisé au temps de la renommée à 43 ans, alors que Tom Brady, pendant ce temps-là, lui, est toujours sur le terrain? Même, je vous demande quasiment de m'en nommer quatre, là. Ça vous donne un indice.
OK, il y en a plusieurs.
Ouais, il y en a cinq.
OK. Peyton Manning?
Il l'est toujours pas. Peut-être qu'il sera à 43 ans, mais il l'est toujours pas.
Excuse-moi.
Joe Montana,
bonne réponse.
Jim Kelly?
Non, Jim Kelly n'est pas parmi les carrières de 43 ans qui ont été intronisées au Temple de renommée à cet âge-là.
Dan Marino,
bonne réponse.
OK, ensuite, Terry Bradshaw?
Non.
Non, j'aime le... Brett Favre?
Non. Brett Favre, ça doit être un peu plus tard. Il a joué, je pense qu'il a joué jusqu'à 40.
Il a joué un peu plus tard, ouais.
Il y a un corps gaucher là-dedans.
Boomer,
Steve Young.
Steve Young, bonne réponse. Donc, Steve Young, Joe Montana, Dan Marino. Il y en a un que vous n'avez pas encore nommé. Et puis, l'autre, je vous le donne, là, c'est Otto Graham. J'avoue que lui...
C'est dans mes souvenirs lointains de ma tendre enfance.
Mais le dernier qui reste, on parlait justement d'un de ces Super Bowls à l'instant avec Terrell Davis.
Moi, c'est Elway.
C'est John Elway, exactement. Donc, les carrières, imaginez, ces carrières-là, Steve Young, Dan Marino, John Elway, Joe Montana, avaient 43 ans quand ils ont été intronisés au Temple de la Renommée.
Pas les pires, hein? Il n'y a pas de Kirk Cousins là-dedans. Là.
Non, il n'y a pas de Kirk Cousins. Mais imaginez le nombre de statistiques qui vont nous sortir sur Tom Brady en fin de semaine là, pour le Super Bowl. Là. On va être noyé sous les photos là, de lui il y a 10 ans, son premier Super Bowl, puis aujourd'hui.
Ça, puis le nombre d'ailes de poulet vendues, là, puis le nombre de bières bues, c'est pas mal les statistiques qu'on
ça voit. Ça risque d'être plus tranquille cette année, par contre.
Ah, il va en avoir pareil.
C'est vrai. OK, hey, c'est pas parce que c'est le Super Bowl que notre tradition d'envoyer des gens au bar se cessera. Donc, gardez le moral. On va avoir une autre section au bar tout de suite après la pause. I got a hangover. Too much for sure. I got a hangover. Whoa. De retour à la zone payante pour notre section au bar avec les gens qui méritent d'aller réfléchir un peu avec d'alcool ou pas. Là, c'est le mois de février, c'est le mois sans alcool. Est-ce que vous allez leur donner un petit peu une bière 1.5 comme on disait dans le temps? Steph, par qui tu commences?
J'envoie Les Snead, directeur général des Rams, au bar. Écoute, c'est pas la pire transaction du monde, là. Faut se calmer, là. Mais je trouve qu'il hypothèque beaucoup trop l'avenir. À un moment donné, quand t'as pas de choix de première ronde avant 2024, je trouve que tu pèles beaucoup par en avant puis que tu mises tout sur 2 ans, là. Moi, ça me plaît pas nécessairement comme transaction. Donc, c'est une punition là, gentille, honnêtement. Là. Ça va être un petit martini. Faut boire ça tranquillement. C'est quand même très alcoolisé. Ça va lui permettre de réfléchir à des solutions là, pour même regarder les coffres là, pour l'avenir des Rams. Là. C'est un petit drink qui va siroter bien tranquillement en pensant à des solutions. Mais faut le dire, par contre, je vais lui donner à Les Snead. C'est un gars dans les dernières années qui a très bien repêché dans les rondes éloignées. Puis c'est ce qui a permis aux Rams de survivre. Parce que ça fait plusieurs années, on le dit, là, qu'ils sacrifient leur premier choix. Ils ont très bien repêché là, dans les rondes 3, 4 et après. Là.
Donc,
c'est ça. Là, ça va leur permettre là, quand même de respirer. Mais quand même, là, je condamne l'ami Les Snead à siroter son drink très tranquillement puis à réfléchir à des solutions parce que ça pourrait faire mal tantôt aux Rams s'ils se retrouvent pas avec un Super Bowl là, suite à cette transaction.
Je vais pas revenir sur notre discussion de tantôt, mais le pauvre Snead aussi, on a vu qu'il a été un peu pris dans une surenchère là, qui l'a peut-être mené à faire un drunk acceptation.
La plus grosse punition que Snead doit payer, dans le fond, là, c'est que ce qui est le plus incompréhensible, c'est qu'il pose un geste désespéré pour se débarrasser d'un contrat que lui-même a donné.
Exact. Juste ça, ça mérite. Le point dans
cette action-là. Donc ça, c'est important de le préciser là, pour les admirateurs de la rubrique du bar.
Jean?
Ouais, moi j'écoute un champion du monde qu'on envoie au bar, Chad Wheeler. Ça a passé un petit peu sous silence. Écoute, c'est évidemment le joueur de ligne à l'attaque des Seahawks qu'ils ont mis à la porte parce qu'il est accusé de tentative de meurtre sur sa blonde, sur sa conjointe.
Aïe, aïe.
Écoute, il l'aurait étranglé à 2 reprises jusqu'à temps qu'elle perde connaissance. Et par la suite, il aurait même dit dans le rapport de police, c'est marqué, que sa blonde a dit, s'est réveillée puis a dit « Ah, t'es pas morte! » C'est quand même quelque chose, là. Et écoute, c'est sûr que là, c'est devant les tribunaux. Il vient de donner son l'acte d'accusation. Lui, il a plaidé non coupable. Donc, on n'a pas encore toutes les circonstances. Mais je pense qu'il n'y a jamais de fumée sans feu dans ce genre de choses-là. Si il est jugé non coupable, ben écoute, je m'excuserai auprès de Chad Wheeler. Mais en attendant, j'ai même fait une recherche pour le drink que j'allais y donner, les gars. Ça s'appelle un flatliner. Donc, je trouvais que c'était de circonstance.
Bon choix.
Zambuca, Tabasco, Gold Tequila. Et quelques flatliners pour lui remettre les idées en place à ce jeune homme californien de 6 pieds 7, 300 livres, qui a décidé qu'il pouvait brasser une jeune femme dans la vingtaine de moins de 100 livres. C'est quand même...
ça prend tout un courage.
Exact, exact. Fait que pour ça, flatliner jusqu'à temps qu'il retrouve un semblant d'intelligence pour M. Wheeler.
Merci Jean, merci Steph. Hey, bon Super Bowl à vous deux, bon Super Bowl aux auditeurs. On a pas mal... profitons de cette dernière fin de semaine, les gars, seuls dans vos maisons.
Oui, mais écoute, on va être là d'esprit, on va être connectés parce qu'il y a plusieurs passionnés qui vont regarder le gros match. Puis comme j'ai dit, moi je m'attends, je veux juste avoir une excellente rencontre pour avoir un bilan super le fun à jaser la semaine prochaine.
Excellent, bien dit Jean. Connectés tous virtuellement, là, on se souhaite un gros match.
Merci les gars, merci à vous d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine. Bye.